député européen RN. Et figurez-vous, Bruno, qu'il a été contraint de démissionner de Frontex, il y a 2 ans.
Ah oui, ça me revient maintenant. Une sombre histoire de plainte, le pauvre homme.
Oui, enfin, il a été accusé par 2 ONG, dont la LDH, de complicité de crimes contre l'humanité et de torture tout de même.
En 7 ans, Fabrice Leggeri a développé les missions de gestion des frontières européennes de l'agence de façon fulgurante.
Mmh. Agence qui a été impliquée dans 222 incidents dramatiques, impliquant 8355 personnes, rien qu'entre 2022
Fabrice
et 2021.
A pris son rôle très à cœur.
En s'abstenant de s'opposer aux autorités alors qu'elle en avait le devoir, dissimulant des preuves de ses crimes, voire parfois même en fournissant un soutien logistique et financier pour les exécuter.
Comme je l'ai déjà déclaré en mars dernier, nous ne sommes pas l'agence européenne de recherche et de sauvetage. Nous sommes l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
De nombreux messages et courriels indiquent clairement que Fabrice Leggeri avait connaissance de ses faits criminels il n'a rien fait.
Et enfin, de quel côté êtes-vous, vous, à la fin, là ?
Moi, techniquement, je ne suis d'aucun côté, je suis juste l'interprète.
Vous rigolez ? Pourquoi vous n'interprétez pas, alors ?
Mais monsieur Latiès parle parfaitement français, donc nul besoin
d'accord,
d'interpréter.
C'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que vous foutez encore là ?
Je ne sais pas, je voulais aider quand même.
Bon, admettons, oui. Bon, mais alors, faisons connaissance, Hermann.
Hans Letiens.
Oui, bah c'est pareil. Hein. Bon, bah, faisons connaissance, Hans.
Ah, il se trouve que je suis un peu timide.
Bon, allez, dites-moi, vous faisiez quoi avant ?
Bah écoutez, avant j'étais commandant de la maréchaussée royale des Pays-Bas.
C'est quoi ça ?
C'est l'équivalent de la gendarmerie, si vous voulez, chez vous, je crois qu'on appelle ça comme ça.
C'est bien.
Et puis j'étais aussi le gouverneur de La Haye. Vous voyez La Haye ?
Ouais.
Voilà, rien de foufou, quoi. Hein.
Oui, bah, pas mal quand même, hein.
Bon, bah, allez-y, Hans. Parlez donc au ministre de la loi Frontex, là, passé en mai en Belgique.
Ah oui.
Ça va lui plaire.
Non, c'est vrai. Enfin, en vrai, rien de foufou non plus, hein. C'est juste que désormais, les agents de Frontex auront le droit d'intervenir sur le territoire belge et de procéder à des expulsions forcées de personnes en situation illégale.
Ah,
et voilà.
Mais ça, c'est très intéressant, ça, mon petit Hans. Allez, venez avec moi, on va papoter un peu.
Si vous voulez.
Mayday. Cinéma.
On a reçu ça de la brigade. On a aperçu mardi 18 février 19h10, place d'armes, un véhicule de type Renault Clio gris immatriculé 5433 RS62. C'est le vôtre ?
Peut-être, oui, je sais pas.
Si, c'est le vôtre. En train de charger 2 individus suspects, probablement des migrants. Vous confirmez ?
Quoi ?
Les avoir pris.
Et pourquoi ? Ils sont suspects de quoi ?
Aide à personne en situation irrégulière, c'est un délit. Vous les avez emmenés où ?
Vous êtes en train de me dire que j'ai pour apprendre des types en stop, c'est ça ?
Ceux-là, non. Il y en a pas loin de 500 aujourd'hui, sur la côte, qui cherchent à passer en Angleterre. Il en arrive tous les jours. Moi, on me paye pour que la ville devienne pas un camp de réfugiés en situation irrégulière. Donc je vous repose la question.
En quoi ça me concerne, moi ? C'est pas moi qui les ai fait venir, je sache.
Non, mais en les aidant, vous en ferez venir d'autres. On a des consignes très strictes pour pas que les Calaisiens commencent à donner un coup de main à ces types. Donc je vous repose la question, vous les avez emmenés où ?
Au cinéma.
Voir quoi ?
Un film anglais, pour qu'ils s'habituent à la langue.
Écoutez Mayday.
Émission 201.
Et on a écouté La Liberté de Soul King.
Tout à fait. Et là, on écoute LCD Sound System et c'est Home, le titre. On a aussi adapté des textes.
Elitsa Georgieva, Les Filles de l'Est. Super.
Un roman sorti début 2024. On vous le conseille. Et puis on a aussi adapté une BD. À qui profite le crime ? À qui profite l'exil ? Pardon. C'est pourquoi pas non plus. De Teina Tervoven et Jeff Pourquier pour les dessins. Pourquier pour les dessins. C'est à la revue dessinée.
Et on a aussi entendu le poème Il meurt lentement dans la bouche de Noureddine. à Bruxelles. Et ce poème, figurez-vous, ce n'est pas nom de Pablo Neruda, mais de Marta Medeiros.
Mayday, l'émission qui ne dit que la vérité.
Tout à fait. Petite nouvelle de l'ECG, sur les 5 personnes qui avaient été arrêtées par la PAF, 3 ont été relâchées. Et puis donc on pense à toutes celles et ceux qui vivaient dans ce lieu, à toutes celles et ceux qui aimaient ce lieu, qui y allaient pour toutes les activités, pour militer, et voilà, au cœur avec les mains.
Et aussi petit rappel, hein, samedi soir, la soirée Anticra, à laquelle on se retrouve évidemment tous.
C'est à Grande Zéro.
Et la semaine prochaine, on écoute quoi ?
La semaine prochaine, on parle fanzine, musique, punk et littérature avec Alex Ratcharge.
Yes.
Tout de suite, c'est les Canu Info.
Bonne soirée.
Ciao.
Dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio, c'est quand Michael Jackson était encore noir.
The Cure. J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi. Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ouais. Il est 19h passé de 10 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Ce soir, on va donc parler de justice laxiste avec Claude Guéant, de Bruxelles qui cède au lobby agro-industriel.
Il y aura aussi plein de brèves.
Ouais,
on peut partout, on expérimente un truc.
On tente, vous allez voir. Ensuite, on va parler de la rétention qui est dans le viseur de notre ami nouveau ministre de l'Intérieur.
Ça sent la rigueur en France.
Et puis personne ne l'a écrit, mais on va quand même encore un petit peu parler d'Israël. Enfin d'Israël, de tous les pays autour d'Israël.
Mais si, c'est marqué. Ah, mais je l'ai remis qu'à mon fil à moi. Bah, c'est le dernier sujet du coup.
Voilà, on expérimente.
On expérimente, tout est expérimental aujourd'hui.
Et on commence alors par mise au point, mea culpa de la semaine dernière.
Du coup, je tenais à m'excuser lors des infos de la semaine dernière. Je vous ai dit que. Comment il s'appelle ? J'ai déjà perdu son nom. Le ministre de l'Intérieur, là, j'arrive pas.
Retailleau.
Voilà, je retiens pas leur nom à tous. Et du coup, je vous ai dit qu'il était seulement cascadeur au Puy du Fou. Alors que c'est totalement faux. Il a commencé cascadeur, mais c'est quelqu'un qui est parti de tout en bas pour arriver tout en haut de la montagne de merde raciste. Du coup, il a fini président directeur, puisque le président c'était Philippe de Villiers.
Du Puy du Fou.
Voilà, donc je tenais à m'excuser pour cette bévue incroyable et surtout à tous nos auditeurs fans du Puy du Fou. Voilà, désolé, pardon, excusez-moi.
Et oui, du coup, hop, tac, tac, et ben, on va enchaîner avec un ancien ministre de l'Intérieur, et c'est Claude Guéant qui a été relaxé par la cour d'appel de Versailles, où il était poursuivi pour avoir volontairement minoré ses comptes de campagne pour la campagne législative de 2012. Alors, il avait été condamné en première instance à 6 mois de prison ferme, peine aménagée par une détention à domicile sous surveillance électronique. Donc, c'est donc la cour d'appel qui est d'habitude si prompt à doubler les peines, qui a décidé de simplement relaxer Claude Guéant. Bon alors, vous inquiétez pas, plusieurs affaires lui collent derrière. On rappelle qu'il avait déjà fait un tour en prison pour ne pas avoir payé à temps et l'amende et ses amendes et ses dommages et intérêts prononcés lors de son procès pour le procès dit des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Franchement, allez chercher sur internet pour comprendre un peu c'est quoi cette histoire, mais il y avait des histoires de 10 000 euros qui disparaissaient tous les mois.
Oui, et puis on se rappelle que pendant l'audience, il disait qu'il n'avait pas pu payer parce qu'il n'avait plus d'argent et il exhibait à son poignet une montre à 50 000 euros.
Et surtout qu'il avait quand même réussi le tour de force. On a découvert à ce moment-là que tous les ministères avaient des caisses noires et du coup, ils se sont tous fait niquer, plus personne n'a de caisses noires, tellement il a tapé dans les caisses.
C'est ça, lui disait, non, c'est pas pour moi, c'est pour récompenser...
C'était que le ministre de l'Intérieur peut-être qui avait cette caisse noire.
Ouais, c'est possible.
Bon, mais en tout cas, il a niqué une tradition d'arnaque républicaine qui existait depuis sûrement...
Voilà.
J'allais dire...
Longtemps.
De Gaulle, le général sûrement.
Et donc ça c'était pour ces histoires condamnées, mais il est également mis en cause dans d'autres affaires, notamment celle du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, affaire qui doit être jugée du 6 janvier au 10 avril prochain, et durant toute cette période, on espère bien quand même avoir un grand retour de Laurent Delabouze qui va nous faire des chroniques sur le procès.
Inch'Allah, il est en maladie là. ECG. Ce matin à l'aube, l'ECG. On m'entend bien là ?
Ouais.
Espace communal de la Guillotière, squat emblématique du 10 quartier de Lyon, a été expulsé. 4 personnes ont été embarquées par la police de l'air et des frontières, dont 3 sont ressorties cet après-midi avec des OQTF. Par contre, aucune nouvelle de la 4e personne. Pour rappel, ce squat a été le théâtre de... tas d'activités différentes depuis de nombreuses années. Les 2 dernières soirées avaient été pour l'association IDIR et Espoir contre le racisme et les crimes d'État et pour la Kanaki en soutien aux militants Kanak prisonniers dans la région. L'expulsion a donné lieu à une manif sauvage qui a traversé le quartier de long en large dans la matinée.
Et si on doit faire une mini-transition avec les Jeux Olympiques, car a priori, si le squat n'a pas été expulsé souvent comme il se doit pendant la période estivale, c'est-à-dire là où en général les soutiens ne sont pas trop disponibles pour venir en renfort, c'était vraisemblablement parce que les CRS étaient occupés pendant les JO. Et donc, transition avec la prochaine brève. Les JO, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces JO en plus de tout ce qu'il y avait d'habitude ? C'était la vidéosurveillance algorithmique, la VSA, qui avait été mis en place à titre expérimental durant cette période. Et bien Michel Barnier l'a annoncé, elle va être généralisée à la surprise générale. C'est donc ce dispositif de surveillance de masse qui va se retrouver un peu aux quatre coins de nos rues. La Quadrature du Net avait senti le coup arriver, puisqu'ils avaient déjà averti que la loi qui prévoyait une utilisation pendant les JO étendait son utilisation jusqu'au 30 mars 2025, soit bien plus que la durée des JO.
On apprenait ce matin que la base militaire malienne de Léré a été attaquée par un drone. La base accueille le poste de commandement de Wagner dans la région. Et l'armée malienne a déclaré plusieurs de ses soldats étaient blessés. C'est la deuxième attaque en moins d'une semaine. De manière générale, les troupes maliennes et leurs alliés wagnériens ont subi de lourdes défaites ces dernières semaines. Un convoi de Wagner avait été éradiqué courant septembre et dans une improbable alliance entre les services de renseignement ukrainiens et les troupes de la CSP-DPA. La CSP-DPA donc réunit les mouvements indépendantistes de l'Azawad depuis février 2023 et est en lutte du coup contre les troupes wagnériennes depuis leur arrivée.
Et on va faire un tour du comité de Bruxelles, et c'est la Commission européenne qui souhaite retarder d'un an l'entrée en vigueur de la législation anti-déforestation après pression des lobbies qui émanent des États-Unis, du Brésil et de l'Allemagne notamment. Cette nouvelle disposition devait interdire à partir de fin 2024 la commercialisation dans l'Union européenne de certains produits, cacao, café, soja, huile de palme, bois, viande bovine, caoutchouc, cuir, ameublement, papier, etc. S'ils provenaient de terres qui ont été déboisées avant 2020. Et ça, fallait donc prouver par des photos satellites, des audits quelconques par les exploitants, pour les entreprises qui importaient auprès des entreprises qui importaient le produit, que tout ça avait bien été déboisé avant 2020, soyons rassurés. Mais la commission indique que, je la cite, plusieurs partenaires mondiaux ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes, comprenons donc, les lobbies ont fait pression. Dans ces conditions, les pauvres petits industriels se voient octroyer un petit délai de 12 mois pour on ne sait quelle raison, puisque le produit provient de forêts rasées avant 2021, et on imagine bien que le délai d'un an ne va pas changer la date de ce fameux rasage avant 2021. Et donc, il y a de grandes chances que ces 12 mois, dans 12 mois, ce sera toujours le cas par rapport à ces histoires de forêt. Bref, il y a quand même des lobbies qui ont une meilleure oreille auprès de la Commission européenne, parce que apparemment, quand c'est des associations, par exemple, de défense des droits des étrangers, qui font pression, qui essayent d'avoir des oreilles auprès de la Commission européenne pour les nouveaux règlements sur l'entrée en Europe, et ben quand même ils sont moins favorablement reçus.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Je n'ai pas
travail. Je vais plus à la NPE, j'ai trouvé du travail. Je suis vachement positif, il fait du ukulélé. Depuis que j'ai arrêté les spliffs, je regarde plus la télé, je me sens tranquille, vachement moins débile. Fini la thune foutue en l'air pour du Tchernobyl. Je suis moins mou, j'ai plus peur de tout. Fini les heures omnubilées par un petit bout. Depuis que je fume plus de shit, depuis que je fume plus de shit, depuis que je fume plus de shit, depuis que je fume plus de shit.
Parce que la musique qu'on vient d'écouter s'accorde très bien avec cette brève en hommage à l'abbé Pierre. Belgique, le 26 septembre, deux prêtres passent la soirée ensemble. Le premier meurt, le second est interpellé pour trafic de drogue. Un prêtre britannique de 69 ans est mort alors qu'il était venu rendre visite à un homologue belge. L'enquête de police a révélé que les deux prêtres avaient consommé du poppers et de l'ecstasy ensemble avant d'avoir des relations sexuelles. Comme quoi, les bons prêtres arrivent encore à se passer de femmes non consentantes et d'enfants et à s'amuser quand même.
C'est un titre que j'ai trouvé tout à l'heure dans la presse. Emmanuel Macron approuve une taxation exceptionnelle pour les grandes entreprises, mais à condition qu'elle soit limitée. Eh bien d'accord, très bien, mais rappelons-le, ce que Macron approuve ou pas, ça n'a vraiment plus la moindre importance. Macron, c'est devenu la reine d'Angleterre, il n'est plus là pour approuver ou désapprouver, juste pour être décoratif. Et même ça, il n'y réussit pas trop.
Canu Info. Du mercredi.
Et bien on va continuer à parler de Rotaillot et donc... Au cas où vous aviez coupé l'actu ces dernières semaines, le ministre de l'Intérieur tente de faire passer Sarkozy pour un militant de la Ligue des droits de l'homme et nous a fait quelques petites sorties pour les plus récentes. Je le cite, « Je pense qu'une société multiculturelle comporte des risques de devenir une société multiraciste. » Et le droit d'avance, il fallait la sortir celle-là.
Je préfère une société uniraciste.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, dorénavant, et donc on rajoute aussi le dorénavant célèbre, je le recite, l'état de droit n'est ni intangible ni sacré. Voilà, ça c'est dit. Et donc, bah, pour commencer, Retailleau souhaite allonger la durée de rétention, maximale de rétention. Et si pour le moment elle est de 90 jours en France pour les sans-papiers de droit commun, elle est allongée à 210 jours pour les personnes condamnées pour terrorisme. Retailleau, compte étendre cette disposition pour, je cite, les crimes les plus graves, sans en dire plus. Donc ça prouve encore une fois de plus qu'à chaque fois qu'il y a un dispositif exceptionnel sur les lois antiterroristes, à chaque fois, bah voilà, c'est hop sur les crimes les plus graves, et puis après, bah hop, ça file dans le droit commun parce que quand même, il n'y a pas de raison. Il a par ailleurs indiqué au préfet de faire systématiquement appel en cas de décision de libération d'un centre de rétention administrative de la part d'un juge. Ça, on imagine que quand même, je crois qu'il le faisait quand même assez facilement, sauf peut-être dans les cas où c'était sûr qu'ils allaient se ridiculiser au tribunal. Bon, là, il demande que ce soit systématique, ainsi qu'une plus grande fermeté au préfet, ce à quoi la préfète du Rhône a répondu présente avant même qu'il ait le temps de finir sa phrase. Autre point inquiétant, les associations intervenant dans les centres de rétention chargées d'apporter une aide juridique et sociale aux personnes retenues sont dans la ligne de mire du ministre. Il souhaite transférer cette compétence à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, plus connu sous le nom de l'OFI, qui avait été créé, si je me souviens bien, par Nicolas Sarkozy. Donc, parce qu'il juge ces associations, je le cite, enfin, il trouve ces associations juges et parties. Voilà, on rappelle que avant, pareil, je crois que c'était déjà Nicolas Sarkozy ouais, qui avait fractionné un peu les associations qui pouvaient intervenir dans les centres de rétention. À l'époque, donc il y a de ça peut-être 15 ans, il n'y avait que la CIMAD qui avait un mandat pour pouvoir intervenir. Il a un peu fragmenté ça avec des appels d'offres un peu dans chaque centre de rétention, ce qui avait un peu divisé la parole, le poids de la parole des associations.
Ils avaient refusé dans un premier temps et ils se sont fait niquer par je ne sais plus qui a dit « Ah si, moi j'y vais ».
Il me semble par un forum réfugié. Mais voilà, du coup, donc ça avait déjà un peu explosé le truc, mais quand même une grosse partie des associations quand même se tenaient sur leur discours. C'est quand même régulier qu'il y ait des discours communs sur les conditions de rétention en France. Mais voilà, donc là, ils souhaitent foutre ça à l'OFI, qui est, je crois, une émanation directe du ministère de l'Intérieur. Et dans la rubrique par contre je réinvente l'eau tiède, donc c'est à dire que là juste avant ça fait quand même partie des trucs où je pense que ça va réellement changer ça va être réellement problématique pour les gens qui sont enfermés dans les centres de rétention. Là c'est encore fait partie, encore des trucs on en avait parlé la semaine dernière sur je sais plus quoi, mais des effets d'annonce, puisque le ministre souhaite conditionner la délivrance de visa aux pays qui rechignent à accorder des laissez-passer, c'est à dire que tous les ministres de l'Intérieur s'ils sont essayés avec plus ou moins de succès en fonction des différents enjeux diplomatiques du moment avec tel ou tel pays, mais c'est vraiment à chaque fois.
La prochaine déclaration, c'est sur l'aide au développement.
Ouais, voilà, c'est ça. À chaque fois, il y a toujours un peu un truc comme ça où au final, ça c'est genre, on va serrer la vis. Finalement, c'est quand même pas vraiment.
Une fois, un ministre de Sarkozy qui avait fait original et qui avait dit on filera plus de visas aux gens du gouvernement pour qu'ils viennent passer leurs vacances en France. Mais il ne l'avait pas fait à la fin.
Oui, c'est ça, mais bon, bref. Mais voilà, ça fait partie des effets d'annonce et après il y a tous les petits détails, je sais pas comment appeler ça autrement, mais comme si effectivement ils refilent ces histoires d'associations à l'OFI, ça va vraiment pas être rigolo.
Gouvernement Barnier, comme on a vu, la gauche gagne aux élections. Un Premier ministre de droite est donc nommé et forme un gouvernement composé de ministres de droite, voire d'extrême droite. Mais pour essayer de faire un peu plaisir à la démocratie, Michel Barnier se lance donc dans l'annonce de mesures de gauche. En plus d'un impôt, rassurez-vous, passager pour certaines grandes fortunes et certaines grandes entreprises, il annonce en plus qu'il n'attendra pas le 1er janvier. Non, que dès le 1er novembre, il va augmenter le SMIC. Et attention, ça chiffre de 2%. Sachant que l'inflation en ce moment et d'après l'INSEE s'élève à 4,9%, le gouvernement Barnier décide donc de faire perdre au plus bas salaire seulement 2,9% de pouvoir d'achat.
Et samedi dernier, un chasseur s'est fait flinguer par un autre chasseur. C'était à Bussy-Albieux, pas loin de Roanne. Que dire de plus, ce coup-ci c'était un chasseur, d'autres fois c'est des innocents. Et là, ça craint vraiment. Rappelons qu'en France, depuis le début du siècle, la chasse a tué environ une fois et demie plus d'êtres humains que le terrorisme. Et depuis le début du siècle, ça englobe la période Daesh, 13 novembre et tout ça. Et alors, combien de fois plus que les étrangers sous OQTF ? Alors ça, j'ai pas les chiffres.
Canu Info.
Et donc, gouvernement Barnier toujours, et donc il risque, lui et son gouvernement, de s'être mis comme objectif de déployer une politique hostile et agressive à l'encontre. Non, pas du tout. Oui, voilà, leur objectif est donc de redresser les finances du pays. S'ils ne comptent pas ou pas trop augmenter les impôts, ils comptent tout de même économiser 60 milliards sur le budget 2025. Alors, toutes les administrations publiques sont impactées, 40 milliards de réduction de dépenses et 20 milliards de hausse d'impôts. Et si donc, d'après Le Canard, le patron du MEDEF a déclaré dans Le Parisien que, je le cite, une hausse d'impôts des entreprises était acceptable, il s'est fait aussitôt taper sur les doigts par la CPME, qui est la Confédération des petites et moyennes entreprises, et encore plus taper sur les doigts par la puissante Union des industries et métiers de la métallurgie, autrement appelée l'UIMM, qui, en plus de dénoncer des propos juge une faute stratégique, je les cite, annoncer ça publiquement, c'est se mettre à poil avant toute négociation. Concernant les administrations, les dépenses de l'assurance maladie et des collectivités locales seront passées à la moulinette. Et l'assurance maladie compte bien mettre au pas certains de ses petits agents. On l'apprend dans le canard enchaîné, c'est le cas des praticiens conseils chargés de s'assurer que les prestations versées par l'assurance maladie sont médicalement justifiées. Bon, c'est un peu les enquêteurs de la Sécu, clairement, de ce que j'ai pu capter de leur rôle, c'est clairement pas des potes. Ils sont plutôt chargés de voir si les arrêts maladie sont justifiés et si un toubib ne distribue pas trop, auquel cas il est mis sous tutelle. Bref, une réforme les contrarie. Avant, ils n'étaient pas employés par les caisses primaires d'assurance maladie directement, mais par les 16 directions régionales. Donc ça, administrativement, vous voyez un peu le bordel. Ça veut juste dire que la réforme prévoit que leur supérieur hiérarchique devienne le directeur de la caisse primaire, qui lui répond donc aux injonctions budgétaires d'un gouvernement. Le risque est donc qu'ils doivent répondre à ces pressions pour refuser telle ou telle prestation à un usager ou une usagère. On se demande quand même bien où était leur indépendance avant ça, puisque depuis la chasse aux arrêts de complaisance de cet été, je cite le gouvernement, nombreux sont les médecins à devoir faire valider ces arrêts de travail par le médecin conseil de la CPME, qui enquête pour savoir si l'arrêt est justifié ou non. Reste à savoir si jusqu'à maintenant le médecin conseil validait facilement l'arrêt par sympathie envers les usagers ou par cofraternité de collègues, ou si sans ces pressions il faisait directement du zèle auprès de la Sécu. Ça, l'article ne le dit pas, en tout cas, affaire à suivre.
Radio Canine.
Non, c'est Radio Canu.
Et voilà, et alors bah, on en est où? On en est à... On va encore un petit peu parler d'Israël. Alors pendant que les l'Iran est pas content parce qu'Israël a tué le chef du Hezbollah, du coup l'Iran balance des missiles sur Israël, du coup Netanyahou dit qu'il va déglinguer de l'Iranien. Ça, c'est ce qui fait les gros titres, mais il n'y a pas que ces gros titres, il y a aussi au moins deux personnes qui ont été tuées aujourd'hui dans un raid israélien visant, pour le deuxième jour consécutif, le quartier de Mazé à Damas. Damas, c'est-à-dire en Syrie. Tiens, un pays frontalier d'Israël, peuplé massivement d'Arabes musulmans qui n'avaient pas encore pris sa petite bombe. L'oubli vient d'être réparé, mais personne ne peut bien sûr dire où et quand cette réparation s'arrêtera, parce que quand Israël commence à bombarder, ma foi, surtout par les temps qui courent, il ne s'arrête pas si facilement que ça. Par ailleurs, Israël appelle à évacuer des villages dans le sud du Liban. Alors au Liban, on en est à 1 million de déplacés, donc principalement les gens qui habitent plutôt dans le sud, plutôt vers la frontière israélienne, ce qui implique des villages chiites, bien sûr, parce que ces gens-là, le Hezbollah, tout ça, mais pas que des villages chiites, puisque là, il y avait l'histoire de au moins un village chrétien, et ça, bah, on dirait que tout simplement, il faut se mettre ça dans la tête, il est juste interdit d'habiter autour des frontières d'Israël, surtout que... chiite, chrétien ou quoi que ce soit, au-delà de la religion, quoi qu'on puisse penser politiquement par ailleurs, un Libanais est toujours un arabe, et un arabe ça reste un arabe, et pour le gouvernement israélien c'est bien une raison suffisante de bombarder des baraques qui donc se trouvent dans les 30 km autour des frontières du pays. Et quoi raconter d'autre sur l'actualité du conflit, c'est que le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a déclaré aujourd'hui que Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, est persona non grata en Israël. C'est-à-dire que si aujourd'hui Antonio Guterres voulait aller en Israël, il n'aurait pas le droit de débarquer. Alors voilà, ça c'est à cause de la manière dont Guterres a condamné l'espèce de cinéma que le Liban a fait autour de balancer des missiles sur Israël, des missiles dont tout le monde savait bien qu'ils toucheraient personne. Mais dans la condamnation d'Antonio Guterres, elle n'était pas assez ferme et unilatérale.
C'est l'Iran.
L'Iran, j'ai dit quoi ?
Le Liban. Le Liban.
Ah là là, tout à fait, l'Iran, merci. Ce qui fait que Israël a décidé maintenant que le secrétaire général des Nations Unies ne pouvait pas venir. Alors bien sûr, on ne sait pas du tout si Antonio Guterres avait la moindre intention de se rendre en Israël, mais et on sait par ailleurs qu'Antonio Guterres a déjà fait depuis un an un certain nombre de déclarations sur le fait que effectivement la manière dont Israël réagissait, ça craignait quand même beaucoup. On sait par ailleurs que globalement les institutions internationales, le tribunal pénal international, la Cour internationale de justice n'ont pas trouvé tout ce que faisait Israël et tout ce que faisait Netanyahou tellement cool. Et voilà, les institutions internationales, alors pour le coup c'est un peu comme l'état de droit de notre côté, on peut en avoir une critique d'un point de vue anarchiste, mais quand c'est la droite et l'extrême droite qui les méprise ou qui les déglingue, c'est quand même le signe que cette droite perd vraiment tous ses garde-fous, qu'elle a vraiment plus de limites dans le discours et dans les actes. C'est plus que inquiétant pour n'importe qui d'un peu raisonnable, c'est un bon signal de panique. Et répétons-le encore une fois avant d'arrêter sur ce sujet, critiquer un gouvernement d'extrême droite est génocidaire, même si ce gouvernement, il se trouve qu'il est composé de juifs, même si ce gouvernement prétend représenter les juifs du monde, c'est pas antisémite de le critiquer. Croire que ce gouvernement représente effectivement les juifs du monde, ça, oui, ça serait antisémite.
Je vous mets un petit générique, enfin, on a fini. On fait quoi ?
On a fini, on n'a pas de...
Il y a des minces.
On n'a pas d'agenda, peut-être... peut-être, je sais pas quoi... Non, on n'a pas d'agenda.
Pas d'agenda ?
Non, rien du tout.
Eh ben, on dit au revoir.
On se retrouve la semaine prochaine.
Bonne soirée tout le monde.
C'est pas du coup s'il y aura idée noire, parce qu'on finit un peu trop tôt pour savoir s'il y aura idée noire. Alors ce sera peut-être idée noire.
On vous laisse au moins avec 20 minutes de bande continue.
Les bandes continuent, mais c'est ça, il y aura au moins 20 minutes de bande continue.
Radio Canu. C'était Canu Info, c'était Canu Info, c'était Canu Info du mercredi. C'était Canu Info, c'était Canu Info, c'était Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. Rebelle des radios.
Vous êtes donc toujours sur Radio Canu 102.2. On vient de s'écouter dans l'ordre Taylor Swift, oui, vous ne rêvez pas, avec Out of the Woods.
Ensuite, c'était les Moldy Peaches avec Who's Got the Crack.
Et enfin, c'était le russe Peter Nalich avec Patility Lap.
Radio Canu, la plus imprévisible des radios. Ça s'appelle comment ça ?